Qu'est-ce que ça provoque en nous, cela? De la joie. Et ce matin, eh bien, j'ai à cœur de vous parler de la joie. Yes, voilà. La joie, on en parle tout au long de la parole de Dieu. La parole de Dieu est truffée de versets en lien avec la joie. C'est cool, hein? Des fois, on est un peu austère, on est un peu sévère, on est retenu, on n'ose pas trop montrer notre joie. Et pourtant, dans la parole de Dieu, nous avons continuellement des versets qui nous parlent de la joie. Alors, on va en voir quelques-uns, mais nous allons commencer par deux injonctions, en fait, qui nous sont apportées par l'apôtre Paul. Je vous propose de lire d'abord dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 9, qui devraient s'afficher. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe, une des premières églises qu'il avait fondée quelques années auparavant. Et Paul, à ce moment-là, se trouve en prison. Donc, il n'est pas en train de faire la fête, de se réjouir dans des conventions de prières et des nuits de louanges où tout le monde est un peu heureux, puis la joie se manifeste. Lui, il est en prison et c'est une période qui n'est pas des plus faciles pour lui. Et pourtant, il va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et si vous connaissez l'Épître aux Philippiens, vous savez qu'au chapitre précédent, eh bien, il le dit déjà une fois. Et puis, on va lire un autre texte dans la première épître de Thessaloniciens, au chapitre 5, depuis le verset 16. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Soyez toujours joyeux. Est-ce que nous sommes toujours joyeux? Oui? Cool. Est-ce que nous sommes vraiment toujours joyeux? Hein? Amen. C'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On a diverses épreuves qui peuvent traverser nos vies. Et puis actuellement, les temps sont plutôt moroses. Hein, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan énergétique, sur le plan climatique. Et j'en passe, c'est pas franchement la joie. Alors, est-ce que ces versets s'appliquent encore à nous aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, en 2022? Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui, et je pense même que c'est un aspect extrêmement important de notre vie de chrétien que d'être dans la joie. Du reste, la joie fait partie du royaume de Dieu. En Romains 14, 17, nous pouvons lire « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais non, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alors Paul, qui écrit toutes ces injonctions, ces impératifs, ces ordres, c'est un ordre hein, d'être toujours joyeux, de se réjouir continuellement dans le Seigneur. Et ce n'est pas un grand naïf, comme je vous l'ai dit, il est en prison, les choses ne vont pas au mieux pour lui. Et il dit bien qu'on n'est pas toujours dans une joie béate, hein, c'est génial, cool. Non, il y a des moments difficiles, mais il ne va pas opposer les épreuves par lesquelles nous pouvons passer avec la joie de Dieu. Il écrit, nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Voilà donc Paul qui a passé par des épreuves multiples et variées, hein, qu'il décrit dans ses lettres, donc il sait que la souffrance est une réalité, que l'Évangile n'est pas là pour nous faire éviter la souffrance et les épreuves. Mais il dit qu'il est Malcolm attristé et pourtant nous sommes toujours joyeux. Attristé et nous sommes toujours joyeux. Jésus a dit également dans Jean 16, je crois que, je ne sais plus si j'avais mis pour le passé, je crois, Jean 16, verset 20 à 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Donc voilà, c'est vrai que nous pouvons passer par des épreuves, nous pouvons passer par des difficultés, par la maladie, mais la joie, cette tristesse se changera en joie et aujourd'hui, déjà, elle est là. Alors, il y a plein d'injonctions, même dans l'Ancien Testament, hein, qui sont liées à la joie. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et avec vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. C'est là que vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans la ville. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœufs, brebis, vin et liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ce sont des versets qui sont tirés du Deutéronome. Et on voit qu'à l'époque, eh bien, voilà, c'était en lien avec les dîmes qui étaient apportées et les personnes qui habitaient trop loin de Jérusalem vendaient leur premier né de troupeau, etc., compte de l'argent, et ils en achetaient, ils pouvaient aller ensuite acheter et manger de la nourriture, des boissons, et se réjouir. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l'allégresse. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et il y en aurait encore quantité d'autres de versets que nous pourrions citer qui montrent cet appel à être dans la joie, à l'occurrence pour le peuple d'Israël. Et pour nous aussi, on a lu ces versets d'Éphésiens et de 1 Thessalonicien. Et j'en rajoute encore un. Dans 2 Corinthiens 13, 11, « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Voilà, il y a donc motif à se réjouir, il y a motif à la joie dans la parole de Dieu et dans le royaume de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que, quelles sont les bonnes raisons que nous avons de nous réjouir? La première, je dirais, c'est que, c'est peut-être pas la plus importante, mais celle que je marquerai là, c'est que Dieu se réjouit de nous. Dieu se réjouit de nous. Et ça, c'est important aussi à le réaliser. C'est pas un Dieu austère, à la barbe blanchissante, ou pas, qui nous regarde d'un œil sévère. Non, c'est un Dieu déjà qui est plein d'amour, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui pleure avec ceux qui pleurent, qui se lamente avec ceux qui se lamentent et qui se réjouit aussi de son peuple. On voit, dans, par exemple, dans Ésaïe 62, les versets 1 à 5, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. L'Éternel met son plaisir dans le peuple élu. » Et ça, c'est extrêmement important de le réaliser. Il met son plaisir en nous. On a aussi un verset dans Sophonie 3, un petit livre, Sophonie, pas facile à trouver dans la Bible, après Habacuc. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence de son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Waouh ! Vous imaginez l'Éternel qui se réjouit à grands cris, hein ? C'est quelque chose, c'est quelque chose. Là, ça sera vraiment la fête totale et absolue. L'Éternel se réjouit à grands cris à cause de son peuple. Il se réjouit à grands cris aussi pour toutes les personnes qui viennent à lui. On a des exemples dans le Nouveau Testament aussi, en particulier dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc, où on a un certain nombre de paraboles, dont celle du bon berger, qui remarque qu'il manque une brebis. Il en a 100, il en manque une. Qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte les 99 qui sont en sécurité dans la bergerie et il part à sa recherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et puis, à la suite de cette parabole, dans Luc 15 toujours, nous en avons une autre. C'est une femme qui perd une de ses 10 pièces d'argent. Elle a 10 pièces d'argent, elle en perd une. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va la chercher également, inlassablement. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Waouh ! Et puis après encore, on a dans la suite de ce chapitre la parabole dite du fils prodigue. Le fils est parti, il a dilapidé l'héritage familial, il s'est vautré dans la luxure et tout, il n'en peut plus, il n'a plus rien à manger, il est sale, il pue certainement. Il n'a plus rien. Et puis, il décide de revenir vers son père de manière humble. Et voilà que son père le voit déjà arrivé de loin. Il court, il l'embrasse. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. « Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Waouh ! Et il y avait des chants et des danses, hein, il est dit, dans cette fête, parce que c'est ça qui a ameuté le fils aîné qui se demandait bien ce qui se passait dans la maison. Et c'était une vraie fête, avec des chants, avec des danses. Waouh ! Tout le monde était réjoui, enfin presque tous, à part le fils aîné. Mais on voit cette joie partout dans ces paraboles. Et la conclusion de tout cela, les conclusions de ces paraboles, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Et puis pour la deuxième parabole, « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Voilà, donc on voit que la joie, elle est au ciel. Une fois encore, la joie, elle est au ciel, elle est parmi les anges. Il y a une grande joie, il y a une grande joie. Et c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de pouvoir nous rappeler qu'il y a cette grande joie dans le ciel. Il y a cette joie chez Dieu, il y a cette joie parmi les anges. Alors pourquoi n'y aurait-il pas de la joie parmi nous, parmi les enfants de Dieu ? C'est donc, on peut se dire que le ciel, pour autant qu'on puisse appeler le ciel, eh bien, ne sera certainement pas un endroit ennuyeux, comme certains le considèrent, mais un lieu de joie et de fête. Surtout qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus rien de semblable, il n'y aura que la joie d'être face au Fils de Dieu. Et puis, le second motif, certainement le plus important, de nous réjouir, d'être dans la joie sans cesse, eh bien, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous a réconciliés avec lui. Vous imaginez un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui vit de toute éternité, qui se suffit pleinement à lui-même, qui, dans son autorité, décide un jour de créer la terre, le ciel, les animaux et l'être humain. Un être humain qui tourne vite très mal, qu'il aurait pu détruire à plusieurs reprises. Ben non. Nous, si on fait des trucs en Lego, par exemple, et puis que ça ne nous plaît pas, on casse tout, puis on recommence. Dieu aurait pu tout casser, certainement, mais ce n'était pas là son plan. Au contraire, il a décidé de payer un prix incroyable pour que l'homme puisse être réconcilié avec lui. Je vous lis quelques versets de Romains 5 dans la version Parole vivante. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faible pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, hein, ça. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que, pour un bienfaiteur ou pour une juste cause, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? Et puis Colossiens 1, 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Voilà, Dieu a payé le prix pour que nous puissions être réconciliés avec lui, pour que nous puissions participer à cette fête fantastique dans les cieux et qui se poursuivra tout au long de l'éternité. Et puis, l'autre motif qui est un peu un corollaire de celui-ci, c'est que un autre motif de nous réjouir, c'est que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Lorsque Jésus a envoyé les 70 pour annoncer le royaume de Dieu, pour guérir les malades, pour délivrer les personnes qui étaient possédées, eh bien, il les envoie, ils font des miracles. C'est génial, ils sont tous réjouis. Ah Jésus, si tu avais vu ça, là, ce malade, je l'ai guéri. Et puis il y avait quelqu'un qui n'était pas bien, qui tremblait, qui crachait et tout. Eh bien, nous avons pu le délivrer du démon qui était en lui. Ah, et puis moi, j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça. Il devait y avoir certainement une grande effervescence autour de Jésus. Et qu'est-ce que... Et réjouissance, puis on peut comprendre, hein. Je suis sûr qu'on serait comme ça. Eh bien, Jésus leur dit, il casse un peu l'ambiance, mais pas totalement quand même, hein. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui doit être le sujet de votre réjouissance, mais c'est le fait que vos noms sont inscrits dans le ciel. Pourquoi ? Parce que on prend vite la grosse tête. Hein. On peut vite prendre la grosse tête, d'une part. Et puis, d'autre part, si lors d'une prochaine campagne, ça ne se passe pas aussi bien, que les démons ne sont pas expulsés, que les malades ne sont pas guéris, on peut se décourager. Donc, ce n'est pas lié aux circonstances, mais c'est lié à ce que Dieu a fait. Donc, c'est reposant parce que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Et puis, c'est Dieu qui a écrit également, qui écrit nos noms dans le livre de vie. Et puis, il y a encore la joie qui est liée à l'espérance qui est celle des chrétiens. Dans 1 Pierre 3, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » 1 Pierre 3, 6. Donc là, on retrouve encore cette coexistence, cohabitation des épreuves, des difficultés que nous pouvons vivre et de la joie en Dieu. C'est donc quelque chose, là, j'aimerais le dire quand même, c'est vrai pour toutes les personnes qui sont éprouvées, pour toutes les personnes qui passent par la maladie, qui passent par l'épreuve. Ce n'est pas du tout une remise en question des souffrances par lesquelles nous pouvons passer. Ce n'est pas un déni des émotions que nous vivons en tant qu'êtres humains. Pas du tout. Pas du tout. C'est, Dieu est en pleurs avec nous aussi lorsque nous passons par des difficultés. Dieu prend soin de nous dans ces moments-là. Mais Dieu aussi nous donne sa joie. Si nous lui appartenons, Dieu nous donne sa joie qui ne va pas se manifester toujours par des cris de joie, par des sauts de joie, des danses, mais qui sera là, profondément ancré en nous. Et c'est là l'aspect important. C'est que même lorsque les difficultés sont là, Dieu est toujours là, lui aussi, au travers de nous. Alors, comment garder cette joie ? Parce qu'on dit que, on s'est fait voler notre joie, On se fait voler notre joie. Soyons attentifs à ne pas nous faire voler notre joie. L'ennemi veut nous voler notre joie. Nous avons les moyens de garder cette joie. Et ça, c'est à nous de le faire. Rappelons tout d'abord que la joie fait partie du fruit de l'esprit. En Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et un peu plus bas, dans cette épître aux Galates, Paul les appelle, les habitants de Galates, à vivre par l'esprit, à vivre par l'esprit. Et si nous vivons par l'esprit, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui, si nous vivons par l'esprit, alors le fruit de l'esprit va pouvoir grandir, va pouvoir se développer en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Aujourd'hui, je vais faire grandir le fruit de l'esprit. Tiens, je vais faire grandir la paix. Non, ce n'est pas ça. C'est au travers de notre vie conduite par l'Esprit que le fruit de l'Esprit va pouvoir grandir. Et puis, comme naturellement, nous sommes plutôt portés à marcher selon la chair. C'est vrai, quoi. Nous sommes nés dans la chair. Donc, soyons attentifs à marcher, à vraiment chercher cette intentionnalité, comme on dit maintenant de plus en plus, cette volonté à marcher selon l'esprit pour être nourri par l'esprit et à ne pas marcher selon la chair et à donner à manger à notre être charnel ou à notre vieil homme ou notre vieille femme. Et on a lu dans Philippiens le menu équilibré pour le chrétien qu'on a lu tout à l'heure, je le relis, c'est Philippiens 4:8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà, donc, de quoi est-ce que nous nourrissons ? Eh bien, nous sommes appelés à nous nourrir de ce qui est vrai, et pas de ce qui est faux, pas des fake news, mais de ce qui est vrai. Et où est-ce qu'on trouve ce qui est vrai ? On le trouve dans la parole de Dieu. De nous nourrir de ce qui est juste, qu'on trouve aussi dans la parole de Dieu. Et nous, comment est-ce que nous faisons avec tout cela dans nos vies ? Est-ce que nous allons vivre dans la rancœur, dans l'amertume, dans le non-pardon, dans remuer, oh là là, tel et tel, là il m'a blessé, mais ça je ne pourrais jamais lui pardonner. La Bible nous enseigne à chercher ce qui est pur, ce qui est juste, et à ce qui mérite l'approbation. Ce qui est digne de louange. Et voilà notre nourriture quotidienne pour marcher également, pour marcher selon l'Esprit. Et puis, Jésus a dit également dans Jean 15, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. C'est beau, hein ? Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, alors demeurez dans mon amour. Demeurons dans l'amour de Jésus. Et comment est-ce qu'on demeure dans l'amour de Jésus ? C'est en gardant ses commandements. Et alors, nous aurons la joie de Jésus en nous et notre joie sera complète. Donc vraiment, ce matin, je nous encourage, et puis qu'on puisse s'encourager aussi les uns et les autres à nous rappeler que Dieu prend plaisir en nous, qui nous a réconciliés avec lui pour l'éternité, que nos noms sont écrits dans le ciel et également que nous avons cette espérance qui est devant nous de la vie éternelle et alors que nous puissions ainsi être encouragés à nous réjouir malgré les circonstances, malgré les moments difficiles, que nous puissions être toujours joyeux. Rappelons-nous aussi que, comme je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter encore, c'est important, Dieu ne minimise pas les épreuves par lesquelles nous passons. Il ne minimise pas nos craintes face à la situation d'aujourd'hui, nos découragements peut-être, nos ras-le-bol, mais il nous rappelle son amour envers nous, sa présence dans nos vies chaque jour. Et il nous rappelle également que l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts vit en nous. Alors avec ça, je crois que nous avons de quoi vivre toujours joyeux, à nous réjouir sans cesse dans le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que Tu nous aimes tellement. Tu prends un tel plaisir en nous. Tu as payé un prix que nous ne pourrons jamais imaginer pour nous sauver, pour nous réconcilier avec toi. Merci pour cet amour. Merci parce que tu nous dis que chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent, eh bien, il y a de la joie au ciel, il y a de la joie parmi les anges, il y a de la joie en toi, mon Dieu. Que vraiment nous puissions vivre dans cette joie, que nous puissions porter cette joie en nous. Elle sera portée de manière diverse par les uns et par les autres, mais que ta joie puisse nous remplir, que nous puissions commencer nos journées avec ta joie, que nous puissions les terminer avec ta joie. Merci, mon Dieu, pour cet amour, pour ta joie qui nous habite. Et Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui passent par les difficultés, qui passent par l'épreuve, par la maladie, par le deuil, par toute situation difficile à vivre. Eh bien, Seigneur, que tu sois particulièrement avec elles ce matin. Je te prie pour que tu les touches, que tu les réconfortes, que tu les encourages, que tu leur fasses ressentir ton amour, ta joie et ta paix dans leur vie. Merci, mon Dieu, d'être avec ces personnes tout particulièrement. Que ta bonne main soit sur chacune d'entre elles. Amen. Amen.